Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h22, l'after est là jusqu'à minuit avec Maxime Chalot, Kevin Diaz, David Glusman et les directs. Avant de continuer notre débat autour de Pierre Sage, un point sur la F1, le Grand Prix du Canada, Jean-Luc.
Nous sommes dans le 10e tour de ce Grand Prix qui va en compter 70. Et pour le moment, eh bien, c'est toujours les Mercedes de Russell qui a pris l'avantage sur Antonelli, puisque au moment du départ, eh bien, Antonelli avait pris l'avantage sur le poleman. Russell a rétabli l'ordre à la mort du virage numéro 3 tout à l'heure. Donc les deux Mercedes séparés par une petite seconde. Derrière, eh bien, à 3 secondes, on trouve Verstappen qui vient de prendre, lui, l'avantage sur Hamilton. Donc Verstappen, très belle remontée. Hein. On rappelle qu'il est parti 6e, il est 3e. Les deux Ferrari suivent, Hamilton 4e et Leclerc 5e. Hadjar est un très bon 6e devant Colapinto, Lawson et Burman. Du côté des autres Français, Gasly est dans les points, il est remonté 10e, il était parti 14. Et Ocon est 15e. Eh bien, tous ceux qui étaient partis en pneumatique intermédiaire, Gilbert, car tu vas me poser la question, ont dû s'arrêter immédiatement à l'issue du deuxième tour pour chausser les pneumatiques pour le sec. Ils sont tous équipés de soft ou de médium.
Donc c'est une mauvaise stratégie. Alors.
Mauvais choix. Très mauvaise stratégie. Voilà.
Bon, il fallait essayer.
Ah oui. Il fallait une grenouille pour savoir.
Exactement. À tout à l'heure. Oui. Ça a bougé la finale de la Ligue des Champions africains à partout entre l'AS FAR et Mamelodi Sundowns. Donc pour l'instant, les Sud-Africains virtuellement à grand port de la Ligue des Champions reste une demi-heure à jouer. Bon, revenons à Pierre Sage, parce que Pierre Sage, il y a le parcours, il y a effectivement la question des diplômes, et puis il y a le style, le management, l'ouverture, Pierre Sage, les explications. Pierre Sage, tous les joueurs sont dithyrambiques le concernant, donc il n'y a pas que le parcours qui fait la différence avec lui, il y a aussi ce qu'il est et ce qu'il dégage.
Il est là aussi pour ça, hein, dans le sens où Pierre Sage, c'était un conférencier du football avant d'être entraîneur de très haut niveau. C'est quelqu'un qui est formateur, je regardais ça affiche, il a déjà été coordinateur sportif, recruteur, directeur technique, team manager, manager.
Il a tout fait. Hein.
Il a été entraîneur adjoint, il est maintenant entraîneur numéro 1. C'est quand même quelqu'un qui a une très très grosse vision du panel des différents métiers dont je parlais aujourd'hui dans un staff technique, et ce qui lui permet surtout d'avoir l'expertise et aussi l'expérience du coup de ces différents postes. Et c'est pour ça que tu le vois, de toute façon, quand il parle, il est calme, il est posé.
Moi, c'est là qui m'a le plus impressionné.
C'est très fort.
Ça, et si je fais un peu le parallèle avec ce qui s'est passé avec l'Olympique de Marseille, où c'est vrai que dans la tempête, en règle générale, les gens ont eu tendance à un petit peu monter au créneau dans la presse. C'est vrai que Pierre Sage, il a toujours été très calme. Mmh. Et on se souvient, quand il y avait ces deux défaites d'affilée, bah, il avait pris la parole, voilà, en expliquant un petit peu que le projet restait le même et qu'il croyait à ses joueurs. Il y a juste uniquement à un moment donné, quand il a fait rentrer ses remplaçants, rappelez-moi quel match, où est-ce qu'il a un petit peu...
C'était contre Brest, exactement.
Quand il avait fait rentrer Sotoka, il l'avait fait sortir à la mi-temps. Mais c'est vrai qu'en règle générale, Pierre Sage, il dégage quand même énormément d'humilité, énormément de sagesse.
Non, mais sur la pédagogie, pour reprendre ce que disait Gilbert, c'est vrai que c'est un tour de force dans la mesure où lui, il le dit d'ailleurs dans pas mal d'interviews, où lui, il venait de nulle part et il a dû arriver avec beaucoup d'humilité, beaucoup de force de conviction, beaucoup de matière aussi pour convaincre son vestiaire. Mais je pense qu'il colle bien à ce que les joueurs demandent. Je pense que les joueurs, quoi qu'on en pense, sont de plus en plus demandeurs de football, doivent être convaincus par un entraîneur, doivent être emmenés par un projet, ce que Rosenior, par exemple, n'a pas su faire à Chelsea. Et c'est là son point fort, dans le contenu, dans la force de conviction, dans la pédagogie. Je pense que c'est là où il arrive à emmener son groupe.
Il a pas dévié de sa ligne. C'est vrai, après les résultats, on parlait pour lui, ça aide aussi, hein, à emmener un groupe avec toi quand tu sais que derrière tu gagnes, quand tu sais que tu fais une saison comme il a fait. Mais je suis d'accord avec toi par rapport à ça. C'est vrai qu'il avait ses idées et il est resté fidèle à lui-même.
Et souvent, moi je fais allez, je suis un peu taquin avec Didier Deschamps quand je dis que c'est un très bon sélectionneur. Je ne sais pas si c'est un bon entraîneur. Mais dans entraîneur, il y a entraînement. Et ça, une chose est certaine, c'est que Pierre Sage aujourd'hui, c'est un grand entraîneur. C'est-à-dire un entraîneur, c'est quelqu'un qui va travailler à l'entraînement, qui va mettre en place, que ce soit des séances, que ce soit des schémas, que ce soit des exercices, des situations, tout ce que vous voulez, des jeux, qui vont être en lien avec son projet de jeu, en lien avec le plan de match. Et c'est ça qui doit être très fort. Moi, je l'ai pas vécu au quotidien, mais de ce que j'ai compris, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise parfaitement la périodisation tactique, qui maîtrise parfaitement donc le fait de s'entraîner tous les jours avec le ballon, avec un sens commun, avec un but collectif et surtout de travailler chaque minute de l'entraînement. Moi, ce que j'ai aussi appris, c'est qu'il y avait énormément d'intensité dans ces entraînements, très peu de pauses, donc un temps d'entraînement qui se rapproche du temps de match. Donc voilà, c'est aussi une science de l'entraînement qui est de très haut niveau.
C'est totalement minuté, tout ça.
Les joueurs peuvent boire, mais il faut boire très vite.
C'est vrai que ça se matérialise aussi avec l'évolution de certains joueurs. Je pense à Gagnou, je pense à Sangaré, même à Bulatovic qui a été intéressant quand Sangaré justement est parti à la CAN. C'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu dis, Pierre Sage, le fait d'avoir eu plusieurs postes dans le football, dans l'industrie du foot, peut-être que ça lui donne aussi cette chance et cette opportunité de pouvoir être un vrai éducateur et faire évoluer aussi ces jeunes joueurs.
Le contexte économique fait que on pourrait aussi penser que le contexte économique, donc le manque d'argent dans le football français, puisse ouvrir les horizons des dirigeants, mais c'est aussi le revers de la médaille de se dire que les marges sont tellement infimes que est-ce que les dirigeants n'en veulent pas se recroqueviller sur leurs croyances et justement à ne pas vouloir prendre de risques. Des entraîneurs, à tort, hein, mais des entraîneurs qui auraient moins de bouteilles. On voit d'ailleurs que dès que les clubs sont en difficulté, ils se recroquevillent, ils retombent directement
sur des entraîneurs français.
Des entraîneurs qui leur donnent des garanties, des entraîneurs qui leur garantissent un plancher minimum. Ouais. Au lieu d'aller chercher le plafond, ils se satisfont d'un plancher minimum. Moi, j'ai un peu peur que le contexte économique, malheureusement, ne soit pas forcément propice à l'audace des dirigeants.
Ça dépend des dirigeants. Quand tu as des dirigeants étrangers, comme par hasard, ils ont souvent un entraîneur étranger, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques, n'ont pas peur de prendre un jeune entraîneur. Et puis après, par contre, moi je le dis, les entraîneurs qui sont très compétents, qui sont des entraîneurs modernes, tu sais, que ce soit aux Pays-Bas ou même en Allemagne, Paulo me le dit aussi, on les appelle les laptop trainers, c'est-à-dire les entraîneurs avec ordinateur, contrairement aux anciens coachs qui avaient leur calepin, qui avaient leur carnet. Là, c'est des entraîneurs.
Il y a des nouveaux coachs sur les calepins. Rosenior et O'Neill, ils ont toujours un calepin.
Oui, derrière, t'inquiète pas que le calepin, ça finit sur une note et ça finit sur son Mac ou sur le PC, parce qu'aujourd'hui, c'est des entraîneurs qui sont capables, d'ailleurs, dans les formations, c'est aussi le cas, mais qui sont capables d'être analystes vidéo, qui sont capables de faire beaucoup de choses. Et dans la préparation des séances, tout ça, c'est informatisé, tout ça, c'est quand même avec les nouvelles technologies, que ce soit les kilomètres parcourus, que ce soit les GPS avec le tracking des positions médianes sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que aujourd'hui être entraîneur au très haut niveau, je pense qu'il y aura de moins en moins d'anciens joueurs. Il y aura de moins en moins d'anciens joueurs, en tout cas d'anciens joueurs de très très haut niveau.
On a vu que ça a pas
qui en plus
fonctionné,
gagnent tellement d'argent, certains, ouais. n'ont absolument pas besoin de travailler, et tant mieux pour eux après leur carrière, en tout cas pour ceux qui auront bien géré leur pécule. Mais aujourd'hui, le métier d'entraîneur est tellement difficile, est tellement un métier exigeant,
qu'il y aura
de moins en moins d'anciens grands joueurs, en tout cas de très haut niveau, qui se dirigeront vers ce métier.
Concluons sur Pierre Sage avec Benjamin qui est là, supporter lensois. Salut Benjamin.
Bonsoir tout le monde.
Salut Benjamin, tu passes un bon week-end toi?
Bah oui, j'étais avec vous donc j'étais content.
Ouais, voilà.
Bah, j'étais sur plateau, après j'étais au Stade de France, donc c'était magnifique.
Bah voilà, t'es un des hommes du week-end, Benjamin, parfait.
Ouais, et j'avais prédit le résultat 3-1, donc c'était parfait.
Bon. Là on est sur Pierre Sage. Est-ce que Pierre Sage va changer un peu les mentalités dans le foot français, son parcours, sa façon de vivre le foot, de le transmettre? Qu'est-ce que t'en penses toi?
Oui, moi je pense qu'il peut parce que les résultats sont pour lui. Et c'est un des rares entraîneurs qui a été capable de faire bouger le PSG, leur faire peur. Il a gagné la Coupe de France, chose que Lens n'avait jamais gagnée. Donc forcément, c'est un faire-valoir pour lui. Et du fait qu'il vienne du bas, entre guillemets, du centre de formation, c'est quelqu'un qui est quand même assez réservé, qui tape jamais dans les journaux. On voit très rarement Pierre Sage faire des déclarations tapageuses. C'est un bosseur et c'est quelqu'un qui, par son talent et par ses résultats, peut dire au gros club, ah, vous avez vu ce monsieur-là? On ne le connaît pas, mais il a été concurrencé le PSG et il a gagné la Coupe.
T'as vu qu'aujourd'hui, il a confirmé qu'il restait?
Oui, qu'il restait à Lens, c'est une très très bonne nouvelle.
Alors moi, excuse-moi d'être... on sait que le foot, il n'y aurait pas un rebondissement près. Donc...
Il va être taquin, tu vas être taquin là.
Non, aujourd'hui, il dit qu'il reste. Bon, maintenant...
C'est fou de partir alors qu'il vient de se qualifier en Champions League, non?
Bah, je sais pas, moi, si demain ou après-demain ou dans une semaine, il y a un gros club, plus gros que Lens qui le contacte.
Ça serait surprenant de sa part.
Non, mais je pense
Pas mieux parfois en termes de stratégie de carrière de partir quand t'es au sommet de ta gloire plutôt que de faire la saison de trop?
Ah, bah, c'est sûr que non, ça sent la saison de trop, surtout si tu perds des joueurs, non?
Oui.
Il veut pérenniser sa relation avec Lens. Et je pense qu'il veut, c'est son rêve, il l'a dit, c'est son rêve de jouer la Ligue des Champions avec Lens. Donc maintenant qu'il l'a atteint, il va le vivre. Bon. Donc il ne peut pas partir. Il
moi,
peut
je
pas
le souhaite au Lensois. Hein.
Après,
bon, une nouvelle fois, il sera demain soir avec nous. Donc
et puis tu connais la communication des acteurs du football, Gilbert. Ouais. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on pense.
C'est bien pour ça que...
C'est demain, mais...
Après là, s'il s'engage personnellement, ce serait quand même... Enfin, et vocalement, ce serait
après,
quand même...
Après, nous, on a déjà parlé de ça. Mais toi, Gilbert, tu trouverais ça... Tu trouves pas ça quand même étrange qu'ils choisissent d'arrêter maintenant?
Non, mais moi, je souhaite à Lens et aux supporters qui restent. Mmh. Mais si je suis l'agent de Pierre Sage et qu'il y a, je sais
tu
pas, moi,
quoi.
Trois clubs anglais qui me contactent, machin, et je dis, mais attends,
pas deux fois, c'est ça.
Réfléchis.
À la Liam Rosenior.
Ta saison prochaine, pour qu'elle soit mieux que celle-là. C'est compliqué.
Ah bah ça, mais je pense qu'il sera pas jugé.
Voire
pas
quasi
jugé.
Impossible.
Oui, d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense que
oui, mais là, il sera pas juste sur le même critère. Tu vas même avoir la Ligue des Champions pour te faire un nom.
L'exposition,
et
exactement.
Et une sur le CV. Tu peux aussi la prendre dans la tronche. Hein. Si
oui,
ça
oui,
se passe
bien. C'est sûr.
Je vais retourner.
Je vais peut-être agir comme les jeunes.
Non, Gilbert, je vais te donner un exemple.
T'es vraiment un Strasbourg.
En termes de gestion de carrière,
Strasbourg.
Toi, tu ferais quoi?
T'es vraiment un Strasbourg.
Kevin, arrête. Toi qui es un pragmatique. Tu es là.
Non, mais là, honnêtement,
tu es dans la peau de Pierre Sage. T'as un club anglais qui t'appelle. Tu dis, les gars, je vous ai laissé les champions, j'ai gagné la Coupe de France, je pars comme un seigneur.
Non, mais dans un club comme Lens, j'aurais quand même envie de découvrir cette compétition avec ce stade, avec ce peuple. C'est ce qu'on disait. Moi, je disais ça avant-hier. Pour moi, si Lens, je crois que c'est toi qui disais, si Lens finit sixième,
et
fait un parcours ne serait-ce que cohérent en Ligue des Champions en gagnant trois matchs.
Sa cote, elle n'aura pas baissé. Surtout, regarde. Non, mais les gars, Eric Roy, sa cote, elle est au plus haut quand il se qualifie en Ligue des Champions ou après le parcours qu'il fait. Pour moi, après le parcours.
Un an plus tard.
Mais après, après le parcours qu'il fait, sa cote, elle est encore renforcée à Eric Roy.
Mais il suffit qu'il
fait un bon parcours avec quelques coups d'éclat.
Il suffit qu'il perde Sangaré et Gagnou. Là, j'ai vu que d'ailleurs, PSG et Paris Saint-Germain
sont intéressés
par Gagnou. Thomas, on s'en va. Malong Sa, Wesley Saïd, à tout moment, tu sais pas avec
qui. Mais personne les attend, en fait, à faire une deuxième place.
Mais non, ça, c'est ce que tu penses. C'est l'équipe dirigeante.
Mais
l'opinion publique.
Après,
l'opinion publique,
elle entend. Mais
non, mais c'est pas le public.
L'opinion publique, mais bien sûr.
Là, ce serait quoi, de la Championship qui l'appellerait?
Mais non, mais jamais de la
Mais attends, la Championship, c'est beau aussi quand même. Il y a
pas dans ce cas-là, tu restes à Lens pour jouer à la Champions League.
Si tu parles de la Championship, c'est pas la même chose.
Tu vas aller à Bolton.
Non, mais qui vient de remonter en Championship d'ailleurs.
C'est pour ça que ils ont gagné le barrage.
Ils ont gagné le barrage 4-1 contre Stockport County, absolument.
Magnifique.
Ça a bougé en F1. Jean-Luc, que se passe-t-il?
Ah ben, ça n'arrête pas de bouger parce que déjà, il y a un baston extraordinaire entre les deux pilotes Mercedes.
Comment est-ce que Toto laisse faire ça, Jean-Luc?
Ben, c'est bien parce qu'il a dit, écoutez, vous vous battez, je veux pas que vous vous sortiez, c'est tout ce que je vous demande. Non, mais c'est génial, ça rappelle, tu sais, la saison 2016, la bataille, tu te rappelles, entre Nico Rosberg et Hamilton à l'époque, hein, qui s'est traduite par le titre de Rosberg. Et Rosberg était tellement épuisé qu'en fin de saison, il a pris sa retraite.
Il a arrêté.
Il était vidé totalement. Et on avait tous pas compris, moi le premier, en me disant, mais pourquoi il fait ça? Il a dit, j'ai donné mon meilleur, je peux pas faire mieux, je l'ai battu, j'arrête. Voilà. Ça m'étonnerait que. Quel que soit le champion des deux, là, ça m'étonnerait qu'il arrête. Donc Toto les laisse jouer, c'est très bien, en leur disant, les gars,
c'est Toto Wolff, c'est ça.
C'est Toto Wolff, c'est le patron de Mercedes. Non, mais c'est fantastique parce que là, vraiment le Grand Prix est absolument enthousiasmant. Alors le problème, c'est qu'ils tapent tellement dans les pneus, ils sont partis en pneus soft. Je le rappelle, on a déjà fait 20 tours. Normalement, Pirelli préconisait un arrêt entre le 17e et le 23e tour. Donc on y est là. À mon avis, on a vu les tentatives d'Antonelli là, qui a tenté deux attaques vraiment absolument magnifique. Derrière, on a Verstappen qui s'est emparé de la troisième position après être parti sixième, je le rappelle, mais il navigue à 5-6 secondes. Hein. Donc pour le moment, il n'est pas dans le coup, en tout cas pour la bataille avec les Mercedes. Et puis on a les deux Ferrari d'Hamilton, qui est pas très loin de Verstappen, il est à 6 dixièmes seulement. Leclerc est un petit peu plus loin, alors lui, il a pris du retard, là, il est à 7 secondes d'Hamilton. Et puis on a Hadjar, sixième, solitaire, ou pratiquement. Colapinto, qui fait un très beau parcours avec l'Alpine. Et puis Lawson, 8e, Gasly, 9e, qui est entré dans les points, et Berman, 10e. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour le moment.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et pendant ce temps-là, rien ne bouge en Italie, comme toujours en Ligue des Champions, et la Juve en Europa League, tout comme Milan, qui sortirait des 4 premiers là, en Italie, si les scores en restaient là. On aura Daniel Emmanouci tout à l'heure pour faire un petit bilan. À tout de suite avec l'OM au programme. Est-ce que l'OM s'est perdu cette saison dans ses relations avec les médias? On va en parler avec David Guzman. C'est son avis du soir. À tout de suite.